Alors, le fait curieux et le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Alors, il faut bien comprendre ce qui nous est signalé là, cette chose anormale, le vin des noces. Le vin des noces, c'est le vin que tous les amis apportaient pour la noce. C'est le vin réservé pour cela. Ça se prépare longtemps d'avance. Or, normalement, le vin des noces ne manque pas. C'est anormal. C'est très curieux. Dès que Jésus est présent, tout de suite, ce que l'homme fait, il remarque immédiatement ses limites. Il suffit de la présence de Jésus pour comprendre les limites de ce que nous faisons. Quand Jésus n'est pas là, nous croyons que ce que nous faisons est parfait. Et quand Jésus est là, immédiatement, ce que nous faisons apparaît avec sa limite. Je crois qu'il y a tout cela qui est impliqué dedans. C'est dit avec une très grande densité. Mais c'est vrai que Jésus étant présent, on souhaiterait que tout soit parfait. Or, justement, cette œuvre humaine, c'est une œuvre humaine de préparer un repas de noces. C'est une œuvre qui est faite avec beaucoup d'affection. C'est le repas par excellence, ce repas de noces. C'est le repas le plus magistral qui soit. Eh bien, ce repas fait avec beaucoup d'amour, le vin vient à manquer. Marie, selon les coutumes du pays, Marie, elle est du côté, comme les femmes, du côté des serviteurs. Les hommes mangent ensemble, selon les coutumes. Et ça existe encore comme ça. J'ai vu un missionnaire qui est en Syrie et qui connaît très bien les mœurs qui se font là-bas encore actuelles, et dit c'est exactement comme ça que ça se fait aujourd'hui encore. C'est que dans les repas de noces, eh bien, les hommes sont d'un côté et les femmes de l'autre. Mais les femmes sont à la cuisine. Et le vin est servi par les hommes, par les amis. Alors on voit très bien Marie qui s'aperçoit tout de suite. Vous voyez le caractère de cette maîtresse-femme de Marie. Elle est présente et elle voit tout de suite. Elle s'aperçoit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avant que les autres s'en aperçoivent. Pour des servants de vin, des amis, servants de vin pour des noces, c'est très ennuyeux qu'il manque de vin. Ça ne peut pas être plus ennuyeux. C'est ce qui est le plus ennuyeux. Pourrait manquer autre chose, mais le vin, ça, s'en aperçoit forcément dans un pays de vin. Alors, possible autrement. Et le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit. Marie va auprès de Jésus. Alors, il faut bien saisir ici, parce que je crois que c'est quand même dans l'intention profonde de Jésus. Jésus a accepté de répondre à cette invitation. Jean-Baptiste, au désert, a refusé. On voit tout de suite l'attitude différente. Et Jésus accepte pour retrouver sa mère, pour présenter à Marie les disciples. Et donc nous pouvons dire que c'est le premier moment où Jésus présente à Marie Jean. Jean ne dit rien, mais c'est impliqué, c'est bien évident. C'est le premier moment de la rencontre, vous voyez, parce qu'il y a le dernier moment, c'est la rencontre aussi de Marie et de Jean à la croix. Alors c'est important de souligner ce premier moment qui se fait dans ce contexte de joie. Jésus a présenté à Marie ses disciples, c'est bien évident, comme il les a présentés aux autres, mais spécialement à Marie. Et tout de suite, Jésus se présente comme chef religieux. Qu'il y a des disciples qui le suivent. Marie, qui porte dans son cœur cet ennui, cette misère des servants, va tout de suite la dire à Jésus. Tout ça a dû se dire dans une très grande discrétion. On ne voit pas Marie criant, hein, ils n'ont plus de vin.
Tu vois pas.
Tandis qu'on voit très bien Marie. Oui, la discrétion de Marie, c'est très important à souligner. La présence de Marie et la discrétion de Marie. Parce qu'il y a tellement peu de choses, hein, sur Marie. Il faut être très attentif. Le Saint-Esprit nous a donné très peu de choses, mais il nous a donné quelques aspects très importants. Tout l'évangile de la... Tout le... La vie cachée, Marie. Ça, c'est sûr. C'est Saint-Luc. Saint-Luc, c'est toujours la mère de Jésus. Et Jean, c'est la femme. Très cru. Ce partage des eaux entre Luc et Jean. Et ça, c'est voulu par le Saint-Esprit. Hein. C'est très, très étonnant, ça. Ce partage qui se fait entre les deux, et qu'on voit tout de suite. Hein. Parce que Jean ne nous dit rien de la vie cachée. C'est pas étonnant. Luc l'a dit. Et la source de Luc, ça a été Jean. Luc a interrogé les témoins. C'est bien évident. Oui, on voit. Lecture du réfectoire Jeanne d'Arc. Hein. La réhabilitation du procès. On va tout de suite voir les témoins. Luc était aussi intelligent que celui qui a fait le procès de réhabilitation, du moins celui qui a repris toutes les pièces. Il est dit au début de l'évangile de Saint-Luc qu'il veut raconter dès le début, qu'il veut rencontrer les témoins. Marie est encore vivante, Jean est vivant. Et Luc sait très bien que Jean est le seul témoin de la croix. Que Jean a certaines choses à dire que les autres ne peuvent pas dire, c'est bien évident. Puisque Marie lui a été confiée, lui a été donnée. C'est pour ça que Jean est une source de Luc, ça, c'est bien net, ça ne peut pas être autrement. Si on regarde les textes sans a priori, hein, c'est sûr que Jean est une des sources. Et chaque fois que Jean a été source, Jean ne reprend pas, il n'a pas à reprendre, il n'a pas à répéter. Donc tout ce qui a été donné dans la vie cachée, ça a été communiqué à Luc. C'est très curieux, alors là ça fait partie de ces mystères dont on n'aura la solution qu'au ciel. Hein. Il y aura beaucoup de solutions au ciel. Donc posons-nous des quantités de questions sur la terre pour avoir des quantités de solutions au ciel. Hein? Parce que si on ne sait pas poser les questions, on n'aura pas de solution. Alors il faut se poser, c'est vrai, pourquoi Jean n'a pas communiqué à Luc les noces de Cana? Il y a des choses curieuses quand même. Je crois qu'on peut dire que l'Esprit Saint, qui est l'auteur principal, a voulu réserver quelque chose d'une manière ultime et dernière. C'est très possible, on peut donner une autre explication, ainsi l'évangile de Jean a été écrit beaucoup plus vite, mais je ne crois pas qu'il a été écrit avant celui de Saint-Luc. Luc est écrit très tôt, hein. Qu'il y a un évangile de Saint-Jean qui a été écrit vers 70, c'est possible, mais c'est de toute façon après Luc. De toute façon, c'est après Luc. Donc si Jean n'a pas communiqué certaines choses à Luc, c'est que l'Esprit Saint voulait mettre en pleine lumière certains faits. Parce que Jean, vous comprenez très bien, on ne communique pas certaines choses quand il s'agit des choses spirituelles et qui sont gardées dans le cœur de Marie, on les garde pour les dire à ceux qu'on doit dire, et pas à n'importe qui. Ce sont des secrets. Les noces de Cana, c'est un secret. C'est un secret du cœur de Marie et du cœur de Jésus. Et ça a été communiqué à Jean. Marie a dit avec beaucoup de discrétion. Vous comprenez bien. Marie qui prend une initiative. Marie n'a pas pris beaucoup d'initiatives à partir du cinquième mystère joyeux. Où Jésus lui a dit « Pourquoi me cherches-tu ? » Ne fallait-il pas que je sois tout entier aux affaires du Père? Et Marie a gardé cette parole sans la comprendre, mais elle l'a gardée dans son cœur. Je crois qu'à partir de ce moment-là, Marie n'a plus eu d'initiative, plus aucune. Jésus est tout entier aux affaires du Père. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, Marie n'exerçait plus l'autorité sur Jésus. C'était Joseph. À partir de 12 ans, les enfants passaient de la mère au Père, hein. La mère, la première éducation morale. Puis après, l'éducation du facere, du métier. Et l'éducation du métier, c'était le père. Et c'est le père qui a appris à Jésus le métier de charpentier. un métier de menuisier. Il lui a appris cela. Marie n'a pas exercé du tout son autorité. Et aucune initiative. Elle gardait dans son cœur, dans le silence. Première initiative de Marie. Ils n'ont plus de vin. Alors il faut demander ici, hein, nous allons le voir du reste, comment Marie a dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je regarde de façon purement extérieure d'abord. Hein. Et Jésus lui dit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Vous savez que ce petit passage est très difficile à traduire, n'est-ce pas? Mot à mot, littéralement, quoi pour moi et pour toi? Idiotisme hébraïque, comme dit le père Hostie, pour repousser une intervention jugée inopportune. Et alors on renvoie à l'Ancien Testament, c'est tout, on explique le Nouveau Testament par l'Ancien, vous comprenez. Alors on renvoie à toutes les formules de l'Ancien Testament, sans apercevoir que ce dialogue entre Jésus et Marie est unique. Il ne peut pas s'expliquer autrement, hein. Il s'explique par lui-même. L'Ancien Testament n'explique rien sur Marie et sur Jésus. Entre Jésus et Marie, il y a quelque chose d'unique. Donc ce n'est pas l'idiotisme hébraïque qui va nous faire comprendre. Ça, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a là quelque chose de tout à fait particulier, d'unique. Comme vous savez, quand on a un discours très direct, je pense toujours, n'est-ce pas, au concierge qui écoute deux amis qui se rencontrent juste en face de l'horloge. Et qu'ils se disent deux mots rapides, un peu en colère extérieurement, la manière dont on reçoit quand on est uniquement spectateur. Deux amis, quand ils se rencontrent, se disent beaucoup de choses en très peu de mots. Et les autres ne comprennent rien du tout. C'est un phénomène classique, on comprend très bien ça. Vous voyez, quand on est uniquement spectateur, hein, l'exégète doit être objectif et spectateur. Hein. Exégète, un certain genre d'exégèse, hein, un certain genre d'exégèse, doit être uniquement spectateur. Alors on regarde ça, on regarde littéralement qu'est-ce qu'il dit. Alors c'est très curieux, hein, je prends ça exactement. C'est du reste, beaucoup de pères de l'Église ont vu cela de cette manière-là. Et saint Thomas le souligne. Marie demande, ils n'ont plus de vin. Et Jésus dit, que me veux-tu, que me demandes-tu, femme? La première fois où Jésus dit « femme » en regardant Marie. Ça, j'en suis sûr. Et je vous dis, ça, c'est Jean tout de suite. C'est peut-être à cause de ça, vous voyez, qu'il n'a pas communiqué à Luc. Là, un grand secret est là. Et secret réservé à Jean. Et secret réservé à Jean, c'est que Marie, dans le regard du Christ, c'est « femme » à la croix. Et l'Apocalypse. Vous voyez le triangle de la révélation de la femme nouvelle, dans la lumière de la très sainte Trinité. Vous avez les trois. Cana, la croix, chapitre 12 de l'Apocalypse. Que me demandes-tu, femme? Il y a un étonnement de la part de Jésus. Mon heure n'est pas encore arrivée, n'est pas encore venue. Donc, apparemment, si je prends tout simplement le texte, en étant spectateur, je dis « Jésus refuse. Marie a fait un faux pas. » Elle n'avait pas à demander ça à Jésus. Jésus est un invité. Et Marie aussi. Alors, à ce moment-là, on est discret. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on fait semblant de ne pas le voir. Mais il y a des gens très polis comme ça. Puis on voit un sujet tout à fait différent, parlant d'autre chose. On voit très très bien, on est des invités. Tout est parfait, merveilleux, c'est extraordinaire. Marie aurait pu être comme ça, mettre un voile sur la tête, au-dessus, en disant, je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout, c'est parfait, il n'y a pas de vin, mais ça ne fait rien, ça sera encore mieux. Et puis Marie aurait pu très bien prendre ce raisonnement. C'est extraordinairement providentiel. Il manque de vin à ces noces auxquelles Jésus est invité. Donc, les hommes seront beaucoup plus sérieux. Et alors pour le petit Jean qui est là, vous comprenez, il était tout jeune, Jean, disciple de Jésus. Il a été disciple de Jean-Baptiste. Quand on a été disciple de Jean-Baptiste, on était habitué au désert. On est habitué à la sévérité du désert. Voilà que subitement, la première sortie avec Jésus, c'était des noces, et avec du vin, et les gens, la joie, tout ça. Quand même, ça ne va pas. Donc, Marie aurait pu très bien prendre cette réflexion. Eh bien oui, c'est providentiel. Vous savez, il y a des gens qui trouvent les providences comme ça, toujours. Mais quand ça manque, c'est providentiel, c'est merveilleux. Il manque de vin, c'est providentiel. Pas du tout. Marie ne fait pas ça. Ça. Pour moi, c'est très, très significatif de la présence de Marie. Marie voit tout de suite qu'il y a quelque chose d'anormal. Alors, il faudrait relire ici, pour bien comprendre, hein, tout ce qui est dit dans l'Ecclésiastique. Je ne veux pas le faire, c'est trop long. Mais c'est intéressant à faire, sur le vin. Et sur le vin dans les banquets, entre autres. Alors, Marie connaît ces textes, hein, c'est des textes connus, sur le vin dans les banquets. Alors, il est dit, entre autres, n'est-ce pas, quand les gens ont bien bu, vous savez très bien qu'on parle plus facilement, sérum de vérité, hein, alors qu'on les fait boire, et puis à ce moment-là, ils déclarent des tas de choses qu'ils ne déclareraient pas autrement. C'est pour ça que dans le couvent, on donne de l'eau, vous voyez. C'est pour qu'on garde comme ça tranquillement et qu'on ne dit pas les secrets, on les garde. Tandis qu'au contraire, quand de fait, on peut communiquer les secrets, alors on fait boire. Et alors il est dit dans l'Ecclésiaste, n'abuse pas de ton voisin qui est déjà un tout petit peu ivre. Hein. Marie connaît ça. Il manquera de vin, donc tout sera calme, paisible. Personne ne voudra connaître des choses qu'on ne doit pas connaître. Prenez les apôtres. Et Jésus a présenté ceux qui venaient du désert. Donc tout sera beaucoup paisible, c'est merveilleux. Il n'y aura que la présence de Jésus qui comptera. Marie ne prend pas cette attitude. Marie prend une initiative. Ils n'ont pas de vin. Alors, quelle est l'intention de Marie dans cette initiative? Parce qu'elle est mue par le Saint-Esprit. Ça, je peux l'affirmer. Donc, c'est sûrement pas un faux pas. Vu de l'extérieur, je pourrais dire que c'est un faux pas. Marie a pris l'initiative, n'aurait pas dû le prendre. Puisque Jésus refuse. Alors, ce qui est très curieux, Jésus a l'air de refuser. Et Marie n'a pas l'air de comprendre que c'est un refus. Ça, c'est le comble. Elle qui est si discrète, elle qui comprend tellement bien, Marie n'a pas l'air de comprendre que c'est un refus. Il est dit immédiatement, sa mère dit aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Donc elle met les servants dans le coup. Ça c'est le comble. Hein. Si Marie considère que Jésus a refusé, Marie doit rien dire aux serviteurs. Elle doit se taire. Elle n'a pas dit au serviteur, je vais demander à lui, lui seul peut vous tirer du pétrin, je vous ai dit, et je le connais, il peut faire quelque chose. Elle n'a sûrement pas dit ça. Elle a été voir Jésus parce qu'elle pouvait lui dire, et elle lui a dit secrètement, avec amour, ils n'ont plus de vin. La réponse de Jésus, qui apparemment apparaît en refus, pour le cœur de Marie, n'est pas reçu comme un refus. Pour nous, c'est reçu comme un refus, mais pas pour le cœur de Marie, puisque autrement, je serais obligé d'interpréter ça d'une façon très curieuse. Si Marie reçoit la parole de Jésus comme un refus, Marie va dire aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, Marie met les servants dans le coup pour obliger Jésus de faire quelque chose. Faites tout ce qu'il vous dira, alors que Jésus a l'air de dire, non, t'en occupe pas. Oui, alors à partir de là, évidemment, on pourra dire ce que femme veut, Dieu veut. Alors vous savez que ça, c'est à partir de Sarah qu'on dit ça. Hein. C'est l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament que ce que femme veut, Dieu veut. Mais ce n'est pas la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, c'est autre chose. C'est tout à fait différent. C'est merveilleux. C'est la Nouvelle Alliance qui commence ici. Alors, je ne peux pas comprendre ce qui se passe entre Marie et Jésus uniquement de cette manière-là. C'est inadmissible, ça ne va pas. Or, Marie dit au servant, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, c'est tout à fait illogique comme texte. Vous voyez, il y a une espèce de brisure. C'est très important, ça. Je n'arrive pas à saisir la continuité de ce texte. Si il n'y a pas cette continuité logique, normale, ça prouve qu'il y a un os derrière. Hein. il y a quelque chose qu'on doit découvrir. Parce que si vous le prenez selon le point de vue tout à fait extérieur, vous n'arrivez pas à comprendre. Je ne vois pas comment Marie, recevant un refus de Jésus, dit au servant, faites tout ce qu'il vous dira. C'est le seul imperium que Marie donne, hein, à travers toute l'Écriture. Donc il est important quand même. Hein. Faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est une parole, vous savez bien, qu'on a adressée à Joseph en lui disant, faites tout ce qu'il vous dira, parce que Joseph était le représentant de l'intendant, le représentant du Pharaon. Il était l'intendant du Pharaon. C'est très joli de voir ça. Donc c'est cette parole qui revient ici, et c'est Marie qui le dit en regardant Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie met en pleine lumière Jésus. C'est elle qui le met en pleine lumière. Pour les serviteurs, elle projette une lumière sur Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Et en disant ça, Marie montre, c'est le nouveau Joseph. Celui qui tire ses frères de la famine. Ici, il ne s'agit pas d'une famine, mais il s'agit quand même d'un manque, de quelque chose de très important pour un repas de noces. Le vin. C'est curieux, ça. Donc, il y a quelque chose d'illogique, là. Et on montre bien, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Ça, on les a bien mesurées. N'est-ce pas ? C'est 2 ou 3 mesures. Alors on dit 5 à 6 hectolitres. Pour ça, l'exégèse est très précieuse. Pour regarder exactement ce que ça représente, c'est pas étonnant, c'est les choses historiques du temps. Hein. Jésus dit aux servants, remplissez d'eau ces jarres. Vous voyez donc que Jésus n'a pas du tout refusé. Et que Marie a raison, faites tout ce qu'il vous dira. Et que grâce à Marie, vous avez des servants de vin qui sont absolument dociles. Parce que Jésus leur demande une chose affolante. Si Marie n'avait pas été là pour dire « faites tout ce qu'il vous dira », je crois que ces servants de vin auraient dit « mais non quoi, tu es malade. En plein milieu du repas, on ne fait pas ça. C'est du vin qui nous manque, c'est pas de l'eau. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Donc ça ne servait pas au milieu du repas. C'était pour le rite. Contenant chacune 2 ou 3 mesures. Il faut se représenter ce que ça représente. Et puis le sens liturgique qu'avaient les Juifs. Ils avaient un sens liturgique extraordinaire. Au début de repas, il y avait des purifications, c'était nécessaire. Mais en plein milieu du repas, en plein milieu de ce repas qui durait peut-être, hein, je ne sais pas, parce que ces repas de noces, ça devait durer quelques jours, hein, l'octave, hein, il ne faut pas l'oublier, l'octave était pour toutes les choses importantes, et donc ça pouvait durer. Donc, en plein milieu, faire appel à ces jarres de pierre, ça n'a aucun lien. Quand Jésus donne un ordre, ça a l'air d'être complètement en dehors de la finalité prévue. Jésus dit aux servants, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Vous voyez, Marie est là pour permettre une obéissance de novice. C'est vraiment une obéissance de novice. Hein. Ces hommes qui connaissent leur métier de servants de vin, ça revient au même, qui connaissent leur métier de servant de vin, voilà que de fait, Jésus leur demande quelque chose de tout à fait à côté. Et Jésus, lui, ne sait pas ce métier-là. On n'avait jamais dit que Jésus servait le vin à des noces, hein, je ne crois pas le fils du charpentier. Et Jésus donne cet ordre. Et immédiatement, ils exécutent. Et les remplir jusqu'au bord. Il y a Marie qui est là. Oui, pour que l'imperium passe bien. Hein. Il faut que l'huile de la barbe d'Aaron coule. Alors ici, on voit bien, faites tout ce qu'il vous dira. C'est Marie qui a donné cela, qui a dit cela pour permettre aux serviteurs d'exécuter, d'obéir. Il leur dit, Puisez maintenant et portez-en à l'intendant du festin. Ah, c'est encore plus gros. Non, parce que ça, mettre de l'eau, ça se passait entre Jésus et les servants. Mais maintenant, voyez, hein, allez porter cette eau à celui qui est l'intendant du festin. Ils en portèrent. Quand l'intendant eut goûté l'eau devenue du vin, et il ne savait pas d'où cela venait, mais les servants le savaient. Je comprends, ils devaient avoir sué, hein, sangué, oh, ces pauvres gens. C'est vrai, c'est effrayant de porter cette eau. Voyez, qu'est-ce que ça représente, hein? Eux qui avaient puisé l'eau, on ne dit pas à quel moment l'eau s'est changée en vin, mais je crois que ça s'est changé à la dernière minute. Parce qu'on dit qu'ils ont puisé l'eau. C'est quand même très curieux, ça. Hein? On ne dit pas du tout. Hein? C'est vraiment, je crois, l'obéissance que Jésus réclame dès le point de départ de sa vie apostolique. C'est l'obéissance, mais une obéissance, hein? Ou de cadavère. Hein, vous voyez bien, hein, ici, hein? C'est une obéissance vraiment de serviteurs. Ces serviteurs qui sont des serviteurs qualifiés, on leur demande une exécution pure et simple. De faire tomber toute leur manière habituelle de faire et d'agir d'une façon tout à fait différente. Je dis, c'est une obéissance de novice. L'intendant appelle le mari et lui dit, tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les gens sont ivres, ce qui devait arriver assez facilement, le moins bon. C'est pour ça que je vous dis, c'est extraordinaire, quand les gens sont ivres, hein, vous voyez que Marie savait bien ça. Il y avait les disciples, et Marie a demandé quand même du vin à Jésus. Pas pour rendre les gens ivres, c'est évident, mais elle savait que c'était l'habitude, quoi, ces gens. La grande détente du repas de mariage. Donc on voit bien ce que ça représente. Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alors c'est très curieux, notez ça, parce que c'est intéressant. Ici, c'est un petit dicton. Hein. Alors pour des petits dictons comme ça, l'herméneutique d'aujourd'hui ne dit rien. Que les dictons, ça passe à travers tous les temps, ça va être au-delà de toutes les cultures. Mais quand il s'agit de la parole du Christ, il faut une herméneutique. Ça me semble très très curieux. Mais c'est très intéressant de voir ça. C'est très intéressant que Dieu révèle des dictons. Pourquoi ? Instinctivement, je vous affirme, tous les exégètes, hein, qui sont à base d'herméneutique, donc pas quelqu'un comme le Père Spic, tous les exégètes qui prennent comme méthode l'herméneutique, quand il s'agit d'un dicton, non, pas besoin d'herméneutique. Un dicton, c'est toujours vrai. Et tout le monde le comprend. C'est vrai, tout le monde comprend ça. Aujourd'hui, comme hier et comme demain, tout le monde comprendra ça, exactement cette chose-là. Du reste, c'est dit, tout le monde, ça fait partie d'une culture, hein, tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc, pas besoin d'herméneutique. Et quand il s'agit de la parole du Christ, comme si elle n'était pas plus universelle, on a besoin d'une herméneutique. Notez ça. Ce sont des arguments ad hominem très précieux et très importants pour comprendre que la parole divine n'a pas besoin d'herméneutique, puisque les dictons n'en ont pas besoin. Les dictons n'ont pas besoin d'herméneutique. Les principes philosophiques n'ont pas besoin d'herméneutique. Et la parole de Dieu n'a pas besoin d'herméneutique. Ah, c'est très curieux, ça. Ça passe à travers tout. Parce que c'est au-delà, vous voyez, d'un contexte uniquement de culture. Le sphinx d'Égypte a besoin d'une herméneutique. Mais pas les dictons. Pas les principes propres au plan philosophique. Pas la parole de Dieu. C'est au-delà. On la comprend ou on ne la comprend pas. Ça n'a pas besoin. L'herméneutique, voyez ce que ça veut dire. C'est de dire qu'une parole est enfermée dans un contexte de culture. Alors il faut l'enlever de ce contexte, lui redonner la signification propre de ce contexte pour la replonger dans une nouvelle culture et donc l'adapter à cette culture. Oui, je vous donne un petit exemple pour que vous compreniez bien. Parce que ça, c'est aussi un exemple qui a été dit, pas devant moi, mais devant quelqu'un qui l'a écouté et qui me l'a montré. Du reste, ça a été dit devant moi d'une certaine manière, parce que ça a été pris au magnétophone. C'était un bon père dominicain qui faisait une conférence pour montrer que l'autorité venait de la base. Alors, à la fin de la conférence, quelqu'un a levé la main et dit, comment expliquez-vous ça, Père, que Jésus dit, tu n'aurais pas d'autorité si elle n'était pas donnée d'en haut? Et Jésus dit ça à Pilate. Donc, Jésus dit que l'autorité vient d'en haut. Alors, réponse du Père, ah mais il faut expliquer ça, il faut l'expliquer selon le contexte. Si Jésus avait dit ça aujourd'hui, il aurait dit, tu n'aurais pas d'autorité si elle n'est pas donnée de la base. Textuellement, hein, c'est très gros, mais ça fait bien comprendre, ça fait bien comprendre, parce que l'herméneutique consiste à expliquer selon le contexte, selon la culture. Alors, évidemment, du temps de Jésus, c'est très net. Temps féodal, l'autorité vient d'en haut. Mais après Vatican II, l'autorité vient d'en bas. C'est-à-dire, elle vient justement de la base. Alors, il faut expliquer. Alors, on donne une nouvelle herméneutique. Vous voyez ? C'est ça. Alors, quand il s'agit d'un dicton comme celui-là, on n'a pas besoin d'herméneutique. Pas besoin. Tout le monde sait très bien ce que ça se passe. Un banquet, ça se passe exactement de la même manière. Le cœur de l'homme n'a pas changé. L'irascible de l'homme n'a pas changé, la concupiscence à l'égard du vin n'a pas changé. Et la culture fait que toujours il y a des vins bons et des vins mauvais, vous voyez ? Il y a de la piquette et il y a du bon vin. Et alors, on sait très bien que c'est toujours comme ça. Pas besoin d'herméneutique, là. Ça passe à travers tout. C'est pour ça que je dis, ce dicton passe à travers tout. Et quand il s'agit de la parole de Dieu, on ne comprend pas que c'est au-dessus d'une culture. Si c'est une parole divine, elle est au-dessus d'une culture. Parce qu'elle parle pour le cœur de l'homme. Ce que Jésus cherche, c'est de convertir le cœur de l'homme. C'est ça l'intention de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint n'entre pas dans une culture. Il s'en sert, mais il la dépasse. Il n'est pas dépendant. C'est très important, ça, parce que c'est là où on saisit ce que c'est que la parole de Dieu. Et alors, Cana, c'est merveilleux de voir ça. Dès le point de départ, vous voyez, je me suis toujours demandé pourquoi il y avait ce dicton, avant qu'on parle d'herméneutique. J'ai compris le jour où l'herméneutique a été appliquée. J'ai dit, ah ben voilà, maintenant je comprends. Mais pourquoi dans une chose... C'est très beau, c'est très gentil de mettre ça, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important. Les dictons demeurent sans herméneutique, sans interprétation. Tel fut le premier des signes de Jésus. Il le fit à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. La manifestation de la gloire du Christ, c'est à travers ce signe, mais c'est évidemment la croix. Il manifesta sa gloire, c'est à la croix. Après cela, il descendit à Capharnaüm, ainsi que sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils ne demeurèrent que quelques jours. Donc Saint Jean souligne que Marie n'est pas retournée à Nazareth. Et que Marie a été la première femme qui a suivi Jésus. Et à partir de Marie, les autres ont suivi Jésus. C'est important, ça aussi, le petit détail que donne Jean. Que tout de suite, Marie a compris qu'elle devait suivre Jésus dans toute sa vie apostolique. Elle a été présente pendant la vie cachée. Il y a eu l'absence du désert, et puis la vie apostolique. Alors, essayons de revenir, hein, vous voyez bien, il y a quelque chose qui est particulièrement important, puisque ça c'est le nœud, c'est ce dialogue entre Marie et Jésus. C'est la demande de Marie. Je crois que c'est ça qui est très important à saisir, exactement comme dans le cinquième mystère joyeux dans Saint Luc, le dialogue entre Jésus et Marie. Et je crois qu'on a à les mettre en parallèle. Ça doit nous aider beaucoup. L'Écriture, le Nouveau Testament, s'explique par le Nouveau Testament, et non pas par l'Ancien. Alors c'est très intéressant de regarder tous les lieux parallèles où on trouve cette formule particulièrement dense, où Jésus semble refuser quoi pour moi et pour toi. Vous savez que le père Marcel, qui est très intéressé à l'écriture, a retrouvé des formules exactement les mêmes au Togo. Il a trouvé exactement la même formule. Quoi entre toi et moi ? Alors, ni pas en hébreu, mais disent dans la langue du pays de là-bas. C'est très curieux, ce sont des petites formules qui peuvent signifier des choses très diverses selon le contexte. Ça peut aussi bien signifier une séparation, parce que ça, il souligne la séparation. Idiotisme hébraïque pour repousser une intervention jugée inopportune. Et ça peut signifier aussi, au contraire, quoi entre moi et toi ? Et tu sais bien, tout ce que tu demandes, ben oui, c'est à moi. Il n'y a aucune séparation entre nous. Aucune. Ça peut signifier les deux, selon le contexte. Donc c'est pas nécessairement repoussé. Et je crois qu'en effet, qu'on peut le dire, hein. Que me demandes-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. Alors ça, évidemment, la chose très étonnante, mon heure n'est pas encore arrivée. Il faut essayer de comprendre ça. Alors je vous dis, n'est-ce pas, c'est, n'oubliez pas, dans Saint Jean, la voix c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il échappe à l'exégèse. Vous voyez bien pourquoi. Parce que la voix, les intonations de la voix dans un dialogue, c'est capital. On pourrait réciter ça selon des tonalités très très différentes. Et immédiatement, on comprendrait quelque chose de tout à fait différent. Parce que dans un dialogue, forcément, l'intonation joue un rôle très important. Surtout un dialogue de deux personnes qui se connaissent très bien. Alors, il faut demander au Saint-Esprit la note. Non ? Comprendre quelle est l'intonation de l'Esprit-Saint. Comment Jésus a-t-il dit ça à Marie ? Et comment Marie a dit ça à Jésus ? Alors là, vous voyez, on tombe dans quelque chose qui, on dira, a ses puissances littérales. Attention, c'est un dialogue. Marie ne narre pas un fait, elle parle à une personne. Le sens littéral, c'est l'intention de Marie, et l'intention de l'Esprit-Saint à travers Marie, et l'intention de Jean qui rapporte, sous l'action de l'Esprit-Saint, ce que Marie a dit à Jésus. Quelle était l'intention de Marie quand Marie a dit « Ils n'ont plus de vin ». Et quelle est l'intention de Jésus ? C'est ça le sens littéral. Hein ? Quelle est l'intention de l'auteur ? Quelle est l'intention de Jésus quand il dit « Femme ». Ce regard de Jésus sur Marie, « Femme, que me demandes-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors je crois qu'en effet qu'après ça, il y a dû avoir un grand silence. Il faudrait réécrire l'évangile de Saint Jean avec les silences. C'était le père Laverne qui disait ça, il avait raison. Il faudrait réécrire l'évangile de Jean avec les silences. Alors les mises à la ligne, vous voyez, après un silence. Vous comprenez très bien qu'après avoir dit ça, quand Jésus a dit ça, Marie ne s'est pas retournée tout de suite vers les serviteurs. Il y a eu un silence. Il y a eu une union profonde entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Puis ensuite, Marie s'est tournée vers les serviteurs. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle a compris. Faites tout ce qu'il vous dira. Alors, comment comprendre la parole de Marie ? Marie se comprend toujours à partir de Jésus. Selon toute bonne théologie, Marie se comprend à partir de Jésus, et non pas Marie qui nous fait comprendre Jésus. Donc, je dois comprendre la demande de Marie à partir du regard de Jésus sur Marie. Femme. La demande de Marie, ce n'est plus la demande de la mère de Jésus. C'est la demande de la femme. Tout de suite, ça. Je crois que c'est la bonne exégèse d'un dialogue. C'est Jésus qui éclaire Marie, c'est pas Marie qui éclaire Jésus. Et quand Jésus dit femme, Jésus nous fait comprendre que l'interrogation de Marie, la demande de Marie, ils n'ont plus de vin. Ce n'est plus la mère de Jésus. C'est Marie, femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus dit femme à Marie? Et si je veux comprendre la demande de Marie, je ne peux pas la comprendre autrement. Quand Jésus dit femme à Marie, à la croix, et ici, Jésus veut nous faire comprendre que Marie est associée intimement à son œuvre. C'est tout le mystère de la compassion. C'est la réalisation de la prophétie du vieillard Siméon. Un glaive transpercera l'âme. C'est le glaive. Parce que la mission de Marie est liée à la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'est la mission du nouvel Adam. C'est celui qui porte l'iniquité du monde pour glorifier le Père et sauver les hommes. Et donc, c'est Marie qui suit l'agneau partout où il va. C'est le mystère de la femme qui suit l'agneau partout où il va. Donc, c'est Marie qui porte la misère de son peuple. C'est le regard de Jésus nouveau sur Marie. Alors, comprenons la misère du peuple, c'est quoi? C'est d'abord la misère des serviteurs, ça c'est bien évident. En premier lieu, c'est ça. Ils n'ont plus de vin. Mais alors, toujours penser sens littéral, sens spirituel, hein, vous allez voir. Comme c'est difficile. Ils n'ont plus de vin. C'est bien évident que c'est ils n'ont plus de vin. Ces serviteurs, ils n'ont plus de vin. Le repas de noces, il y a quelque chose qui manque. C'est d'abord ce vin-là, en premier lieu. Mais attention, est-ce que ce n'est pas aussi autre chose? Dans le livre de la sagesse, il est dit que la sagesse invite le peuple, elle a dressé la tente et elle invite le peuple à venir prendre le vin. Tous ceux qui n'ont rien, c'est pas sans, pas besoin de payer, le vin est donné généreusement, le vin de la sagesse. Le vin de la sagesse, c'est quoi? C'est le vin de la parole de Dieu. Il est dit dans le Cantique des Cantiques, c'est l'épouse qui dit ça. Ta parole est pour moi un vin délicieux. Le vin exprime le mystère de la parole, symboliquement. Il exprime la parole de Dieu. Vous ne croyez pas que depuis le cinquième mystère joyeux, où Jésus a commencé d'enseigner les docteurs, son premier enseignement, c'est pour les docteurs, c'est pour les théologiens, Jésus a continué son enseignement auprès de Marie. Jésus a appris à Marie de lire l'Écriture en l'interrogeant. Il n'a pas fait du tout un cours d'exégèse, non, non, pas du tout. Je ne vois pas Jésus à 12 ans faisant un cours d'exégèse à Marie. Mais je vois très bien Jésus à 12 ans interrogeant Marie. Et obligeant Marie d'aller plus loin, et d'aller toujours plus loin, comme il a interrogé les docteurs en Israël. Il interroge Marie. Il veut qu'elle comprenne, qu'elle aille le plus loin possible. Marie, bien plus que les docteurs en Israël, est ravie de l'intelligence de Jésus, de son intelligence divine de l'Écriture. Et pour elle, c'est le festin de la sagesse. Elle est invitée tous les jours à ce banquet de sagesse. Et vous croyez que Marie n'a pas un désir intense que tous ceux qui sont autour d'elle, son peuple, ceux qui sont à Jérusalem, les docteurs d'Israël, reçoive le même enseignement qu'elle a reçu. C'est impossible autrement. Elle est partie de son peuple et elle aime son peuple. Elle porte la grande misère de son peuple. Ils n'ont plus de prophètes. Il ne faut pas l'oublier, ils n'ont plus de prophètes. Parce qu'ils n'ont plus de prophètes, ce peuple n'a plus la foi qu'il devrait avoir. La parole de Dieu n'est plus donnée. Alors, on comprend. Ça, c'est le regard du saint, et donc de la sainte, à travers les événements ordinaires de la vie. Il y a une signification profonde. C'est comme une parabole. Il y a une signification profonde. Jésus invité aux noces. Il manque de vin, comme c'est significatif. Le peuple d'Israël invité aux noces de la sagesse n'a plus le vin de la parole. Alors on comprend la démarche de Marie. Ils n'ont plus de vin. Et on comprend que c'est la femme qui dit ça. Celle qui porte la misère de son peuple. Elle porte la misère de son peuple, pas seulement la misère de ceux qui sont les servants, mais elle porte la misère de son peuple. Ils n'ont plus de vin. Et je crois que c'est vraiment l'intention profonde du cœur de Marie, puisque Jésus dit « Femme, que me demandes-tu ? » Jésus reçoit la demande de Marie, mais chaque fois qu'on fait une demande à Jésus, Jésus reçoit cette demande dans une profondeur nouvelle. Toujours, c'est comme ça. Chaque fois que nous demandons quelque chose à Dieu, à Jésus, Jésus reçoit cette demande, mais pour Jésus, cette demande a une signification beaucoup plus profonde. Ici, c'est la même chose. La demande de Marie, c'est la demande du vin des noces et la demande de la parole de Dieu. Et pour Jésus, Jésus sait qu'il vient apporter plus que la parole. Il vient apporter le vin nouveau. Femme, que me demandes-tu ? Tu ne sais pas. C'est Marie qui demande le vin. Et vous comprenez que pour Jésus, le vin, ça prend une signification nouvelle. C'est son sang. C'est pas seulement le... C'est pas seulement la parole. La parole divine est un vin délicieux, très bien pour l'épouse, mais il vient apporter plus. Et c'est pour ça que la demande de Marie touche si profondément le cœur de Jésus. Femme, que me demandes-tu ? Tu ne sais pas. Mais Jésus reçoit sa demande. Mon heure n'est pas encore venue. Marie met Jésus devant son heure. Et chaque fois que Jésus est en présence de son heure, selon l'évangile de saint Jean, il y a un moment d'agonie. Mon âme est troublée. Il y a donc à avoir un grand silence à ce moment-là. C'est Marie qui précipite les événements. Et c'est vrai, c'est le rôle de Marie, c'est le rôle de la femme de précipiter les événements. En toute hâte. Et sans le savoir, mais sous la motion de l'Esprit-Saint. Alors ce dialogue devient très fort. Parce qu'il noue, voyez, vraiment le cœur de Marie avec le cœur de Jésus, l'agneau. L'agneau qui versera son sang, qui sera le nouveau vin. Et c'est Marie qui réalise cela sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Femme, que me demandes-tu ? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et c'est pour ça que je crois qu'à ce moment-là, il y a comme un premier moment d'agonie dans le cœur de Jésus. Et un silence profond qui unit la femme qui porte la misère des hommes et Jésus, l'agneau.